Laudetur Jesus Christus.
Neuvième jour de guerre au Proche-Orient, les frappes meurtrières continuent au Liban et à Gaza, où 60 personnes ont perdu la vie ce dimanche. Un nouveau bilan pourrait dépasser les 44 000 morts. À la veille du mai, millième jour de guerre en Ukraine, la Russie intensifie ses frappes dans le pays. Infrastructures énergétiques tirent contre Odessa ce lundi. Les États-Unis autorisent Kiev à utiliser leurs missiles de longue portée, ce qui n'est pas le cas de toutes les chancelleries. L'opposition russe en exil a défilé hier dans les rues de Berlin. Il s'agissait de sa première grande manifestation anti-guerre. Dans ce journal, nous irons au Sénégal où le parti au pouvoir s'oriente vers une large victoire aux élections législatives tenues hier. Le duo Faye-Sonko se voit confirmé dans son projet.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. La guerre rend inhumain. Les gouvernements doivent écouter le cri des peuples réclamant la paix. Nouvel appel du pape hier midi en marge de l'Angélus, place Saint-Pierre. L'évêque de Rome pense à une liste de pays meurtris dans la Terre Sainte, Israël, le Liban, la Palestine. L'enclave où près de 44 000 personnes sont mortes en 400 jours. Selon le chiffre du ministère de la Santé du Hamas, cité par le chef de la diplomatie européenne ce lundi. J'ai épuisé tous les mots pour expliquer ce qu'il se passe au Moyen-Orient, déclare Josep Borrell à Bruxelles. Hier, plus de 110 personnes ont été tuées en un seul jour, 70 dans la ville de Bethlaya, dans la région nord. À Jérusalem, Valérie Ferron.
La région nord de la bande de Gaza reste depuis un mois et demi totalement isolée et ses habitants bombardés, assiégés et affamés. Les missiles continuent de frapper intensément, notamment la ville tout au nord de Bethlaria, faisant plusieurs morts ce matin et plus de 70 hier, dont beaucoup de femmes et d'enfants, dans le bombardement d'un immeuble privé de 5 étages. Des chiffres bien en dessous de la réalité, comme l'a rappelé ce matin le directeur des services d'urgence pour la région nord, Mohamed Abou Afsh, dans son point quotidien sur la radio gouvernementale palestinienne.
Notre collègue présent à Bethlaya ne cesse de nous dire que le nombre des personnes tuées est bien plus élevé, de même que le nombre de maisons détruites. Le Croissant Rouge ne peut pas accéder aux blessés sous les gravats, ni évacuer les corps des personnes tuées gisant dans la rue.
Cette zone, de même que la région centre, reste le théâtre de violents combats entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes, qui continue d'attaquer soldats, chars et bulldozers militaires, causant des pertes humaines et matérielles importantes dans les rangs de l'armée israélienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Le pape qui, pour la première fois, évoque la possibilité d'une enquête pour déterminer si juridiquement un génocide est en cours à Gaza. Mention en est faite dans la préface de François à un livre sur l'espérance à paraître demain en Italie. Près de 400 écoles fermées aujourd'hui à Beyrouth au lendemain de frappes israéliennes meurtrières qui ont visé le cœur de la capitale libanaise. Et deux semaines après la rentrée scolaire de l'école publique au Liban, plus de 30 000 élèves sur les quelques 300 000 attendus manquent encore à l'appel selon les chiffres du ministre sortant de l'éducation. L'armée israélienne, de son côté, fait état ce lundi d'environ 30 projectiles tirés du Liban vers le nord de l'État hébreu dans les régions de Galilée supérieure et occidentale. Autre front d'attention, l'Ukraine martyrisée. La veille du millième jour de guerre aux portes de l'Europe, au moins 8 morts encore ce matin dans une frappe russe contre le centre historique d'Odessa. Condamnation d'ailleurs de l'UNESCO, dont une mission est sur place depuis samedi. La Russie qui a lancé hier la plus grande attaque de drones et missiles contre des villes ukrainiennes et leurs infrastructures énergétiques. Dans ce contexte, le Kremlin dénonce la décision des États-Unis d'autoriser des missiles de longue portée américains en territoire russe. Une mesure destinée à jeter de l'huile sur le feu, selon Moscou. La Chine, de son côté, exhorte à l'apaisement sur ces missiles. Ce revirement stratégique d'ampleur de la part de Washington à l'égard de Kiev devrait servir aux Ukrainiens, dans un premier temps, à protéger la région russe de Koursk tenue par Kiev. À New York, Loïc Loury.
L'arrivée en Russie de 10 000 soldats nord-coréens venus aider Moscou à reprendre la région de Koursk, c'est cela qui aurait finalement décidé Washington à donner son feu vert à l'Ukraine. Après des mois de débats avec ses conseillers, Joe Biden autorise Kiev à frapper la Russie sur son propre territoire avec les missiles ATACMS d'une portée de 300 km déjà fournis par les Américains. Une rupture stratégique majeure de la part du démocrate, même si le cours de la guerre ne devrait pas en être bouleversé, tempère des responsables. Objectif, dans un premier temps, permettre à Kiev de défendre la région de Koursk conquise cet été et mettre en garde la Corée du Nord. Ses soldats seront menacés s'ils opèrent sur le sol russe. Joe Biden tente aussi peut-être de mettre Kiev dans la meilleure position possible en cas d'éventuelle négociation forcée avec Vladimir Poutine. Dans 2 mois, c'est en effet Donald Trump qui prendra sa place dans le bureau ovale et le milliardaire compte bien couper les livraisons d'armes à l'Ukraine. New York, le Éclairé, Radio Vatican.
Et Paris estime que l'utilisation de missiles français sur le sol russe reste bien une option. À l'inverse, l'Italie refuse que Kiev utilise ses armes hors de son territoire. Varsovie évoque ces missiles comme un langage que Poutine comprend, à l'inverse de la diplomatie téléphonique a lancé le Premier ministre polonais Donald Tusk à son homologue allemand. Pendant ce temps, à Berlin, des opposants russes en exil marchent contre Poutine et la guerre en Ukraine. Plus de 1000 d'entre eux ont défilé contre les événements en cours dans leur pays. Dans un contexte national où l'appel téléphonique d'Olaf Scholz à Vladimir Poutine vendredi a été très diversement reçu. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Non à la guerre en Ukraine, non à Poutine, pour la libération des prisonniers politiques. Ce sont les 3 principaux slogans de cette manifestation qui a réuni jusqu'à 2000 personnes avec un point d'orgue, un passage non loin dans l'ambassade de Russie en Allemagne. En tête de cortège, 3 leaders de l'opposition russe, Yulia Navalnaya, la femme de l'opposant Alexei Navalny, mort en février dans un camp de prisonniers en Russie. Elle vit depuis en Allemagne. À ses côtés, il y a Yashin et Vladimir Karamazov. Ses 2 autres opposants à Poutine ont été libérés en août lors d'un échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Organisée 1000 jours après le début de la guerre en Ukraine, cette manifestation sous l'égide de ces 3 personnalités visait à unifier une partie de l'opposition russe en exil. Celle-ci est divisée. La fondation créée par Alexei Navalny est notamment critiquée pour des financements douteux, alors même qu'elle a fait de la lutte contre la corruption un de ses chevaux de bataille. Yulia Navalnaya suscite aussi des critiques. Dans une récente interview à un média allemand, elle s'est dite opposée à la stratégie européenne actuelle contre Moscou. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Au Vatican, le Premier ministre arménien reçu par le pape Nicole Pachignan a échangé ce matin avec le souverain pontife pendant 30 minutes. En début d'année, recevant le clergé catholique arménien, François avait déclaré prier pour la situation dans le Haut-Karabakh. L'Arménie, qui organisera la COP17 sur la biodiversité en 2026, voit pour l'instant son voisin azéri accueillir les négociateurs de la COP29. Ce lundi, le Conseil de l'Europe appelle Bakou à libérer les défenseurs des droits journalistes et militants emprisonnés en Azerbaïdjan. Dans une lettre adressée au président Aliyev. Bakou, où les négociations pour le climat patinent, le secrétaire général de l'ONU espère qu'un déblocage de 1 000 milliards de dollars arrivera ces 2 prochains jours, notamment des dirigeants du G20 réunis à Rio. Lendemain d'élections au Sénégal, le parti au pouvoir se dirige vers une large majorité au Parlement. Ainsi, le président Faye et le Premier ministre Sonko auront tous les moyens de mener leurs amples réformes, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Abdoulaye Diop.
Les Sénégalais étaient hier aux urnes pour élire les 165 députés de la 15e législature. Et c'est dans le calme et la sérénité que les 7 033 850 électeurs inscrits ont voté pour départir les 41 partis et coalitions à lice. Les premières tendances issues des 338 040 électeurs de la diaspora ont largement milité en faveur de Pastef Ousmane Sonko, une tendance qui va s'accentuer en fin de soirée avec le dépouillement effectué dans les 16 440 bureaux de vote. Les résultats vont livrer une victoire nette et sans bavure du parti au pouvoir, le PASTEF, qui file vers une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Les dernières tendances qui en attestent placent provisoirement le PASTEF en tête avec 119 sièges contre 15 pour la coalition Diamag Diri de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Après cette victoire sans conteste saluée par plusieurs candidats, le PASTEF Ousmane Sonko a à présent les coudées franches pour matérialiser ses promesses électorales, dont la mise en place de la Haute Cour de justice, la probable mise en accusation du président Macky Sall et l'épineuse question relative à la criminalisation de l'homosexualité. Abdoulaye Diop, Dakar, Radio Vatican.
Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États achève ce lundi sa visite au Cameroun. Monseigneur Gallagher doit être reçu par le président Paul Biya et donner une conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. L'actualité du pape, de l'église et du monde revient à 18h, présentée par Alexandra Sirgan. Belle journée.